Ensemble, prions. Seigneur, en cet instant où nous nous apprêtons à lire les Écritures, aide-nous à les comprendre, à les interroger, à les clarifier et à en faire vivre le sens au cœur de nos existences d'aujourd'hui. Amen. L'extrait, ou plutôt les extraits, sur lesquels portera notre méditation d'aujourd'hui sont tirés du premier livre des Rois. Tout d'abord, au chapitre 18, les versets 22 à 40. Le roi d'Israël, Achab, ayant épousé la syrophénicienne Jézabel, introduit le culte de Baal, dieu de la fertilité, seigneur de la pluie et du feu. Le prophète Élie annonce alors au roi une grande sécheresse sur le pays. Il doit fuir au bord du Kérit, puis à Sarepta, pour sauver sa vie. Pendant ce temps, la reine fait massacrer les prophètes de Yahvé. Et après 3 ans de clandestinité, Dieu renvoie Élie auprès d'Achab pour lui annoncer enfin le retour de la pluie. Élie, après avoir vivement blâmé le roi, l'enjoint à réunir au mont Carmel tout le peuple d'Israël et les 450 prophètes de Baal. Achab ayant accédé à sa demande, voici maintenant les faits. Et Élie dit au peuple : « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, ce sera lui le vrai Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant : « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal : « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant : « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit : « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. » Il pense à autre chose, où il est occupé, il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple : « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit : « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout autour un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois. Puis il dit : « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit : « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. « Faites-le une 3e fois. » et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit : Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent : C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit alors Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent du Kizon, où il les égorgea. Ce récit que nous venons de parcourir propose une scène pour le moins spectaculaire. Nous sommes les témoins, à distance dans le temps, d'un défi opposant deux équipes, à ceci près qu'Élie est seul de son côté. Défi visant à démontrer à grand renfort de prouesses surnaturelles la supériorité de l'une par rapport à l'autre. Dans quel objectif ? Prouver au peuple que, de Baal et de Yahvé, l'un est un faux dieu et l'autre l'unique véritable. La réponse nous paraît sans doute évidente et on se demande s'il était vraiment utile de déployer autant d'effets spéciaux pour y parvenir. Il y a sans doute un sujet, mais finalement aucune vérité inédite qui en découle. Les conditions d'engagement du défi, pour ne pas dire du jeu, posent elles-mêmes question. D'une part, et c'est important pour ne pas dire essentiel à souligner, parce que Dieu n'a jamais rien demandé de tel à Élie. La tournure que prennent les événements est à l'exclusive initiative du prophète. D'autre part, parce qu'à deux titres au moins, Élie n'est pas parfaitement honnête dans la façon dont il pose le contexte. S'il y a bien quelqu'un qui n'a aucune raison de douter de l'existence de Yahvé, c'est bien lui, porteur du message même de l'Alliance, traduit en ces termes par le Deutéronome : « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Autrement dit, Élie fait un pari sur Dieu tout en n'ayant aucune raison de douter de sa propre victoire. C'est une sorte de jeu de dupe qu'il propose au prophète de Baal. Ajoutons à cela qu'il se désigne comme seul prophète de Yahvé, alors qu'il sait pertinemment, le texte nous l'apprend un petit peu plus tôt, que son serviteur Abdias a caché 100 autres prophètes dans deux cavernes. Il oriente ainsi la perception de la foule en se mettant en avant, à la fois comme élément minoritaire, mais aussi catalyseur, en quelque sorte maître du jeu. Et si l'on observe qu'en cours de route, il ne manque pas de railler ostensiblement ses adversaires en échec, la démarche n'est déjà pas tellement glorieuse. Chaque partie procède tour à tour aux invocations attendues. Rien ne se passe du côté des prophètes de Baal, tandis que Yahvé enflamme le bûcher de bois mouillé qu'a fait dresser Élie. Il fallait bien ajouter pour lui une difficulté supplémentaire, histoire d'attester encore plus fortement le moment venu de sa supériorité. Le souci à ce stade, c'est qu'Élie offre à voir une représentation de Dieu dans la puissance et dans le feu, qui n'est ni plus ni moins que celle du supposé Baal. Non content de s'avancer en super champion de Dieu autoproclamé, Élie donne Dieu en spectacle, en corrompt l'image, et propose, sans s'en rendre compte, un nouvel objet d'idolâtrie. Alors oui, Yahvé, ou plutôt Élie, en réalité, sort vainqueur du défi. Quelle surprise, me direz-vous. La mise en scène spectaculaire et les imprécations d'Élie aidant, la foule tombe à genoux et scande le nom de Yahvé. On pourrait presque se croire devant certains de nos jeux télévisés à une heure de grande écoute, tant l'atmosphère est conditionnée. Ceci dit, même si la méthode a de quoi susciter le doute, il n'est pas interdit d'imaginer que dans la suite directe de cette démonstration, Élie aurait pu user d'une certaine pédagogie pour nuancer et affermir cette adhésion de la foule. Mais était-ce réellement possible ? Un point de non-retour n'a-t-il pas déjà été franchi ? Et en effet, c'est ici que tout bascule, dans l'horreur. Soit parce qu'Élie n'est pas pleinement satisfait de la réaction du peuple, peut-être s'attendait-il à de violentes représailles de la foule à l'égard des prophètes de Baal, voire un soulèvement immédiat et massif contre les souverains idolâtres. Soit parce qu'il est débordé par l'exaltation de sa mise en scène et laisse s'échapper ses propres pulsions. C'est en tout cas un dérapage abominable avec la mise à mort de ses propres mains, avec une complicité induite du peuple de 450 individus. Détail intéressant dans le texte, aucun commentaire sur cet acte épouvantable, aucune réprobation relatée de la part de Yahvé, ni même d'avis personnel du ou des auteurs. Et nous allons voir qu'il n'en est pas réellement besoin. À lui seul, le coup d'éclat finalement tragique d'Élie fait son œuvre et se transforme en un échec cuisant. Un échec parce que finalement, rien ne garantit maintenant au prophète la conviction absolue de la foule. D'autant qu'il s'est fait l'émissaire meurtrier d'un dieu de feu, mais aussi de mort, qui ne peut qu'engendrer la peur et la méfiance. Un échec parce que non seulement le peuple ne s'est pas soulevé contre ses souverains, mais voilà de surcroît Élie menacé de mort, en représailles logiques, par Jézabel. Élie fuit, non pas sur l'ordre de Dieu comme après sa première rencontre avec Akab, mais ici de sa propre initiative. Il ne se demande pas quelle est alors la volonté de Dieu pour lui. Il abandonne, de fait, le peuple de Dieu et sa mission. Élie focalise sur sa propre condition, non sur la portée de ses actes, dont il subit sans s'en apercevoir les conséquences. Il se croit délaissé par Dieu et se pose en victime. Sa solution, se laisser mourir. Mais non, Dieu est là et part deux fois par l'intermédiaire d'un ange. Il va nourrir Élie dans la suite du texte, le relèvera et le remettra en mouvement sur le chemin de la vie. Après 40 jours et 40 nuits de marche, Élie arrivera au mont Horeb et trouvera refuge en ce lieu où Yahvé était apparu autrefois à Moïse sous la forme d'un buisson ardent. Et je vous propose, pour faire la liaison avec ce que nous venons d'entendre, de lire quelques lignes de la suite de l'action au chapitre 19, les versets 9 à 16. Et là, il entra dans une caverne où il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit : J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit : Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles : Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit : J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui répondit : Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. La caverne, le désert, la nuit, l'isolement, la solitude, la détresse, le dénuement et l'introspection. C'est l'ici et maintenant d'Élie à cet instant précis. Et voici que Dieu l'interpelle : Que fais-tu ici ? Cette question compatissante, que l'on pourrait aussi formuler par « Comment en es-tu arrivé là ?», n'appelle en réponse aucune argumentation ou stratégie de défense. Nous ne sommes pas dans un prétoire. Plutôt, une rétrospective des événements de fil en aiguille jusqu'à un point précis de l'existence. Dieu cherche ici à susciter la réflexion, la conscience d'une responsabilité même chez le prophète. Et que répond Élie ? Je t'ai servi de tout mon zèle, les autres sont mauvais ou peu fiables, en quelque sorte, et moi qui suis seul, moi, on veut me tuer. Je ne comprends pas, je mérite autre chose. Dieu a donné des indices à Élie en le sauvant de la mort, en poussant sa marche à travers le désert, en le nourrissant. Et pourtant, c'est une mauvaise réponse. Ou plutôt une association de mauvaises réponses. Auto-justification, déresponsabilisation, culpabilisation de l'autre et reproche à peine déguisé d'un présumé délaissement par Dieu, teinté d'une exigence rétributive, rien de moins. Mais Dieu est patient. Et voilà qu'à son tour, mais cette fois par lui-même, il va mobiliser les éléments. Faisant sortir Élie de l'obscurité de la caverne, image du moi dans lequel celui-ci s'est enfermé, Dieu se révèle à lui. Non dans la puissance destructrice de la tempête, non dans les forces telluriques, ni dans le feu, ce même feu qu'Élie avait utilisé comme instrument de démonstration, mais dans un murmure doux et léger. Oui, Dieu est là, dans l'à peine perceptible d'un souffle de vie. Cette fois, Élie comprend, apparemment. Cependant, à la question réitérée, « Que fais-tu ici ?», il se borne à renouveler sa première réponse. Décidément, se remettre en question n'est pas chose facile. Que fait alors Dieu ? Il s'agace, il se fâche, il réprimande, il reproche ? Non. Dieu fait grâce. Dieu est grâce. Il confie à Élie trois ultimes missions. Lui offre une transition positive par laquelle il oindra deux rois, dont le nouveau roi d'Israël, et son propre successeur, le futur prophète Élisée. Le ou les auteurs de ces récits, comme souvent dans le Premier Testament, nous tendent avec le personnage d'Élie une sorte de miroir de nos propres fragilités, aux conséquences parfois catastrophiques. Force est de constater que quelques 2600 ans après leur écriture, ces lignes demeurent très actuelles. Elles nous mettent en garde contre la tentation de parler et d'agir à la place de Dieu. Pire encore, de l'instrumentaliser au profit d'ambitions purement humaines. Se pose alors la question essentielle de notre représentation de Dieu. Élie cristallise sur sa conception d'un Dieu de puissance spectaculaire et finalement de mort. Alors certes, Dieu est bien le feu du ciel qui a allumé le bûcher mouillé de l'Holocauste lors du défi, mais il n'est pas que cela, surtout pas. Dieu se révèle dans son absolu, au contraire, dans une force de vie face à l'adversité, dans la patience et dans la bienveillance, dans l'imperceptibilité au cœur du quotidien. Je citerai Daniel Marguerat selon lequel, à sa manière, Élie a découvert le Dieu de Jésus-Christ qui n'est pas arrivé de manière fracassante, mais dans un souffle, vulnérable, faible parmi les faibles, livré à l'hostilité et aux soupçons, seul devant sa mort, témoin d'un Dieu tellement différent de celui de nos rêves. » Fin de citation. Ce Dieu-là, dans son exaltation, puis dans sa détresse, Élie ne le reconnaît pas. Il s'obstine à rester centré sur lui-même, sur sa perspective triomphale d'abord, puis sur son abandon supposé ensuite. Élie devient son propre sujet au point de s'arroger le droit de sa propre définition, ô combien erronée, de Dieu. S'il en est là, c'est aussi parce que face à un renversement inattendu de situation, il a renoncé à assumer sa responsabilité individuelle à l'égard de ses semblables. Ils sont coupables, lui bien sûr, il est incompris et il a dû fuir. Et surtout, il a perdu sa confiance en Dieu, s'en croyant délaissé, incapable qu'il était de considérer les choses en réflexivité. Tout au long de ce parcours quelque peu caillouteux d'Élie, mis en scène par le ou les auteurs du texte, nous pouvons lire en filigrane une direction que Dieu nous donne à suivre dans nos existences. Une direction dans laquelle nous sommes invités en conscience, en confiance, en responsabilité et en humilité à changer notre regard sur Dieu, hors de toute représentation ou bénéfice attendu, à l'intégrer en nous dans sa fragilité, son imprévisibilité et même son imperceptibilité. Ainsi éclairés par l'Esprit, qui est en vérité œuvre de Dieu en nous, nous pourrons à notre tour, hommes et femmes de passage, comme Élie, messagers et messagères de vie, nous laisser porter par ce souffle de Dieu qui nous rend libres, dans la paix, chacun et ensemble.